Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur CNews pour 90 minutes info, les débats bien sûr et toute l'actualité avec nos invités. William T est avec nous. Bonjour. Bonjour William, Mathieu Langlois nous a rejoint. Bonjour Mathieu Langlois et Eduardo Rian-Sipel. Bonjour Eduardo Rian-Sipel, soyez le bienvenu. L'actualité, les débats bien sûr dans quelques instants, mais d'abord un point sur l'info avec vous, Jeanne Cancard. Bonjour.
Vladimir Poutine dénonce un crime ignoble après la mort de la fille d'un idéologue réputé proche du Kremlin. Moscou accuse Kiev de l'avoir tué. Selon le FSB, ce sont les services spéciaux ukrainiens qui ont préparé et commis le meurtre de la jeune femme en faisant exploser sa voiture. Toujours selon les services de sécurité russes, la femme de nationalité ukrainienne qui aurait piégé la voiture s'est ensuite enfuie en Estonie. En France, quelques jours après les violents orages qui ont frappé la Corse et ont fait 5 morts, le conseil exécutif de Lille appelle à en tirer d'indispensables leçons avec une question principale en ligne de mire. Était-il possible de mieux anticiper cet orage d'une violence exceptionnelle ? Météo France n'avait placé la Corse en vigilance orange seulement quelques minutes avant le début des orages. Elle n'avait plus atteint un tel classement depuis octobre 2018. Caroline Garcia a remporté hier le WTA 1000 de Cincinnati. C'est le 10e trophée de la Française. 17e au classement WTA aujourd'hui. Elle sera tête de série de l'US Open.
Et prochain point sur l'actualité dans une demi-heure. Mais on va démarrer notre session avec cette cyberattaque au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes. C'est en région parisienne. Il est frappé par cette attaque depuis samedi dernier. Les pirates exigent une lourde rançon. On va d'ailleurs retrouver sur place en direct Mickaël Martin-Haïm pour les toutes dernières informations. Et notamment un hôpital qui semble paralysé, Mickaël.
Il est environ 1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche lorsqu'une attaque, une cyberattaque vient toucher le centre hospitalier sud de Francilien. Les services sont tout d'abord perturbés puis paralysés. L'hôpital perd chacun de ses logiciels et services informatiques. Une attaque qui rend inaccessibles 3 services, les logiciels métiers hôpital, le système de stockage mais aussi le système d'information d'admission de la patientèle. Les patients, justement ceux déjà présents dans l'hôpital, sont toujours soignés mais l'hôpital est en mode dégradé, nous dit-on. Les malades qui, eux, arrivent sont renvoyés soit dans des hôpitaux publics d'Île-de-France, soit, pour les cas les moins graves, renvoyés à la maison de garde du centre hospitalier francilien. Le centre hospitalier qui précise tout de même que les problèmes de sécurité n'entachent pas la sécurité du bâtiment.
Et les hackers réclament une forte somme, plusieurs millions de dollars, très exactement. C'est la demande, hein, Mickaël ?
Tout à fait, Lionel. 10 millions de dollars. Une demande faite en anglais, un acte qui est jugé comme un acte criminel par les services de l'hôpital. On nous indique d'ailleurs que cette somme ne sera pas payée. Le plan blanc a d'ailleurs directement été déclenché par l'hôpital, un plan blanc déclenché dimanche. Depuis, une enquête pour intrusion dans un système informatique et pour tentative d'extorsion de fonds a été ouverte par la section cybercriminalité du parquet de Paris. Les investigations ont été confiées aux gendarmes du centre de lutte contre les criminalités numériques. Et puis, sachez que dans une petite demi-heure, aux alentours de 16h, les représentants du personnel et le service de l'hôpital, la direction de l'hôpital, vont se rencontrer pour évoquer cette cyberattaque et pour voir quelles sont les conséquences sur les prochains jours. On nous dit que cette attaque pourrait durer plusieurs jours.
Mickaël Martin-Haïm en direct de Corbeil-Essonnes avec Loïc Tonza. Avant de se pencher sur le cas principal de la cybersécurité ou de la cyberattaque, de tout ce que ça peut engendrer, il y a déjà le mode de fonctionnement. C'est une cible très précise. C'est un hôpital, et je me retourne vers vous, Mathieu Langlois. Quand on ne peut pas faire de radio, quand on ne peut pas utiliser l'informatique, quand on ne peut pas opérer avec la technologie, un hôpital ne peut pas fonctionner. Et c'est ce qui se passe actuellement.
Bah c'est les leçons qu'on tire à chaque fois. Ce n'est pas le premier cas de cyberattaque sur un hôpital. Et j'ai eu la chance de partager des retours d'expérience avec des médecins qui ont été directement impliqués. Et à chaque fois, ce qui ressort, en dehors de l'aspect technique dont on reparlera plus tard, mais sur le plan humain, c'est particulièrement lourd à vivre individuellement, mais surtout collectivement pour toutes les équipes de soignantes. On est vraiment dans le pilotage de crise pour lesquels, évidemment, les hôpitaux sont de mieux en mieux préparés. Il y a eu le terrorisme, il y a eu évidemment la crise Covid. Et maintenant, les cyberattaques qui sont évidemment prises en compte par les structures hospitalières, par les médecins, par toutes les équipes. Mais il faut bien se rendre compte que c'est très impactant. Alors là, il faut voir exactement quels sont les logiciels, quel est le niveau.
Bien sûr. Il y a beaucoup de patients qui sont renvoyés vers d'autres hôpitaux. C'est-à-dire que l'hôpital de Corbeil-Essonnes, aujourd'hui, ne peut plus recevoir de patients. C'est ça aussi.
Là, de toute façon, l'hôpital s'est mis en oui. situation de pilotage de crise.
C'est le plan blanc. C'est ce qu'on appelle le plan blanc.
Le plan blanc fait partie de la réponse. Mais c'est réellement, là, maintenant, quelle va être la capacité et l'agilité des équipes pour pouvoir soigner dans le brouillard, voire dans l'obscurité totale.
Un hôpital, c'est une cible facile quand on est malfaiteur, terroriste?
Alors, ce qu'on disait hors plateau, c'est évidemment que c'est une cible facile. Un hôpital est ouvert. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les plans intrusion, mais sur le cyber, je ne suis pas un spécialiste du cyber, mais évidemment que l'hôpital est plus difficile à protéger que bon nombre d'entreprises qui peuvent, entre guillemets, créer une cage de protection plus facilement. L'hôpital, il a cette obligation, c'est que déjà, il est ouvert, et en plus, il a une obligation, on parle de plan de continuité d'activité, et lui, il y est en permanence. C'est-à-dire que là, il y a dans l'hôpital cité, il y a il y a un grand nombre de malades, il y a des programmes opératoires, il y a de la radiothérapie, il y a tout un tas de choses. Et quand ça vous arrive, c'est très brutal, c'est la définition de la crise. Et donc, il faut à la fois se protéger, mais surtout être en capacité de maintenir une activité, voire d'accueillir de nouveaux patients.
Oui. Et combien de temps aussi cette cyberattaque va durer? Puisqu'on entendait Mickaël tout à l'heure, on écoutera un syndicat hospitalier également. Ça peut durer de 2, 3, voire à 7 ou 8 jours. Et là, il y aura des répercussions évidemment considérable. Mot pour conclure avant que je cède la parole à Edouard.
Les retours d'expérience que j'ai fait, c'est plusieurs mois.
Plusieurs mois.
Plusieurs mois pour
avant
un retour
que le système se rétablisse.
Pour un retour à l'activité normale, c'est plusieurs mois.
C'est impressionnant. Alors la cybersécurité, Edouard Riancipel, à l'Assemblée nationale, vous avez travaillé sur ce sujet. C'est un sujet à la fois passionnant mais qui fait très peur parce qu'on a l'impression parfois d'être dans un film d'espionnage, d'être dans le bureau des légendes en quelque sorte. Mais il faut s'y préparer parce que ça va sans doute être de plus en plus fréquent.
Oui, les cybermenaces concernent toute la société. Elles peuvent porter atteinte aux infrastructures vitales de la société et à toutes les structures de la société. Ces cybermenaces, aujourd'hui, elles engagent la souveraineté nationale. Elles engagent la souveraineté nationale au niveau des structures de l'État. Elles concernent la souveraineté économique et industrielle du pays parce qu'à travers ces cyberattaques, on peut piller de l'information hautement stratégique, secrète, confidentielle qui concerne nos brevets industriels, par exemple. Et elles concernent aussi la souveraineté des citoyens à travers la protection des données personnelles et ce que j'ai appelé l'intimité numérique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous une vie dans le domaine numérique et il s'agit aussi de protéger notre intimité, comme nous protégeons notre intimité dans la vie réelle, physique. Il faut aussi la protéger dans le domaine numérique. Le cyberespace, du point de vue militaire et de la doctrine militaire, est un champ de bataille comme les autres, au même titre que la terre, la mer, l'espace et l'air. Et donc, il faut le protéger. J'ai beaucoup travaillé sur ces sujets, effectivement, dans la loi de programmation militaire pour 2014-2019, lorsque j'étais député. Et c'est un sujet qui a été vraiment pris à bras-le-corps par les autorités de l'État. Aujourd'hui, je ne doute pas que l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui est sous l'autorité du Premier ministre au sein du SGDSN, est en première ligne pour réparer les dégâts et ramener une situation à la normale. Mais j'appelle aujourd'hui tous les citoyens, j'appelle toutes les organisations de la société, les entreprises, notamment nos PME, mais aussi les hôpitaux, les mairies, toutes les organisations publiques et toutes les organisations de la société, à partir du moment où nous sommes connectés à des systèmes d'information numériques avec des ordinateurs, il faut trouver les moyens de protection. Sachez que l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, est là pour accompagner les structures. C'est très important. Nous avons eu une attaque contre TV5 Monde qui a failli détruire les structures de cette chaîne de télévision. Aujourd'hui, c'est une cyberattaque qui a l'air d'être de la cybercriminalité. une sorte de prise d'otage avec une demande de rançon.
10 millions de dollars, c'est sérieux quand même, ça. En tout cas, ça semble sérieux. Si on peut pas, on peut prendre le contrôle d'un hôpital et d'ordre
municipal. On peut prendre le contrôle d'un hôpital.
On demande 10 millions de dollars. Soit c'est du bluff, et alors là, c'est un immense joueur de poker.
Vous savez,
soit c'est très très sérieux, c'est un terroriste.
Et je rappelle qu'il y a des données personnelles. On peut bloquer le fonctionnement d'un hôpital. C'est une sorte de prise en otage parce qu'on demande d'agir vite pour rétablir le fonctionnement d'une structure aussi importante qu'un hôpital dans notre société. Et on joue à ce chantage très très fort. Et on peut prendre très bien, je le dis, un cabinet d'avocats, des professionnels libéraux. Ils peuvent être attaqués et on leur dit, voilà, maintenant on a pris tous vos dossiers, vous n'y avez plus accès. Si vous voulez avoir de nouveau accès, il faut payer une rançon de tel chiffre. Il faut protéger la société contre les cybermenaces.
Comment
on peut prendre le contrôle aujourd'hui ?
On a le sentiment parfois que les hackers, ces cyber-agresseurs, on réponse à tout
d'abord,
et arrive à contourner les systèmes.
Notre société française est suffisamment protégée, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut une prise de conscience.
Edouard,
j'espère que cette cyberattaque
participe
de la prise de conscience générale.
Et pas suffisamment protégée, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Quand j'étais député avec la majorité et le gouvernement de l'époque sous François Hollande, nous avons mis en place un certain nombre de lois et de règles pour protéger ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, les OIV. Ils sont au nombre de 220. La moitié privée, la moitié publique, la liste elle est secrète. Et nous avons créé des obligations de protection à ce niveau-là. Ce sont en gros les distributeurs et les producteurs d'énergie, de transport, bancaire. Parce que vous imaginez, demain on peut prendre avec une cyberattaque le contrôle du système bancaire. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc tout ça est assez protégé à un très haut niveau. Mais certains secteurs de la société ne sont pas encore suffisamment lucides. J'appelle à cette prise de conscience. Et encore une fois, si on cherche de l'information, il faut aller en direction de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui accompagnera les entités.
En tout cas, cela fait peur pour le commun des mortels. Parce que quand on n'est pas spécialiste, quand on n'a pas travaillé sur le sujet, William T., on a le sentiment qu'on est complètement démuni. C'est-à-dire qu'il y a une agression invisible. On ne peut pas se prémunir physiquement de cette agression-là. Et quand on est hacké, on fait quoi ?
La France est attaquée. C'est une attaque qui est lâche parce qu'en fait, c'était un système qui était vital. Et si par cas, ils arrivent à prendre le contrôle de l'hôpital, forcément, on n'a pas beaucoup de choix parce que pour récupérer le contrôle de l'hôpital, on est quasiment obligé de payer, en tout cas dans un laps de temps qui est très court. Mais ça nous met sous la menace de différentes formes de cyberattaques. Je pense qu'il faut comprendre dans le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on est attaqué par des États, mais on est également attaqué par d'autres formes et des organisations criminelles et des formes alternatives aux États. Et ces formes alternatives vont prendre de plus en plus d'importance dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, dans la mesure où en fait ils sont concurrentiels et ils concurrencent l'autorité des États pour faire de l'argent. Vous avez les crimes organisés, vous avez d'autres formes d'organisations, terroristes, militantes, activistes, etc., qui vont attaquer le système d'information de l'État. Il faut se rappeler notamment que même les États-Unis d'Amérique, qui disposent d'un des meilleurs systèmes d'information, s'étaient fait attaquer via la NASA et le service de renseignement qui avait perdu une partie de leurs informations. Donc tous les pays sont attaqués. La question, c'est comment on fait pour se défendre activement. Je pense que ça repose sur la fondation même d'Internet. Internet se base sur un système de liberté. Et donc forcément, les hackers sont plutôt dans tendance rebelle. Et donc du coup, les meilleurs hackers sont plutôt de l'autre tendance, plutôt que pour la sécurité des États. Il faut que la France trouve les moyens d'avoir un modèle qui est attractif pour qu'on puisse rémunérer, soit en les piégeant, un peu comme ce que vous avez raconté dans le Bureau des légendes, pour attirer les meilleurs hackers de notre côté, parce qu'en fait, c'est une arme stratégique, comme l'a rappelé Eduardo Riancipel. On a connu les combats sur Terre, on a connu les combats sur mer, dans les airs, dans l'espace, et maintenant, nous avons un combat qui est numérique. Est-ce que la France et l'Union européenne sont assez souverains sur le plan numérique pour pouvoir se protéger ? Est-ce que nous pouvons également, au-delà de nous défendre, pouvoir lancer des autres attaques ? Parce que si par cas, c'est un nouveau espace de bataille, est-ce que la France est en capacité de lancer d'autres attaques contre d'autres
nations ? Ça, je vous le confirme. Et quand nous étions en majorité,
Je pense qu'il faut davantage l'utiliser, notamment avec ce qu'on vit actuellement, plutôt que de risquer la vie de nos hommes, comme la doctrine militaire est en train de changer. Peut-être qu'il faut amener d'autres actions, comme la cyberattaque.
Complément avec Edouard Riancipel, et après j'aimerais écouter Mathieu Langlois.
Juste parce que c'est très concret, justement pour rénover la doctrine française en matière militaire, de cybersécurité, cyberdéfense, nous étions jusqu'à 2013 avec Jean-Yves Le Drian uniquement avec une doctrine défensive en matière de cyberdéfense. Depuis un discours célèbre à Rennes de Jean-Yves Le Drian lorsqu'il était ministre de la Défense, je pense que c'était 2013, autour de ces années-là, nous sommes passés à une doctrine offensive. C'est-à-dire clairement, la France, du point de vue militaire, dans sa doctrine, se permet la possibilité de faire des cyberattaques pour faire face à des attaques de notre côté si nous étions menacés. On peut avoir une démarche offensive en matière de cyberdéfense au plus haut niveau de l'État, et je peux vous assurer que la France est parmi les 5 ou 7 pays les plus dotés en matière de cybersécurité.
Je vous laisse découvrir le message sur son compte Twitter du ministre de la Santé, François Braun, au sujet de cette attaque, de cette cyberattaque contre le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes. Je suis de près la situation au centre donc hospitalier sud-francilien. Touché par cette cyberattaque, c'est un acte inqualifiable. Ses auteurs seront poursuivis. Plein soutien aux équipes mobilisées pour la sécurité et évidemment la continuité de la prise en charge des patients. Néanmoins, ça ressemble, pardon d'utiliser le terme, il est peut-être un peu fort, Mathieu Langlois, mais là, ça ressemble à une prise d'otage, franchement.
Voilà. Oui, le terme, il est un peu excessif. Moi, j'aime bien la dernière phrase de François Braun, qui est de rassurer en expliquant quand même que la continuité d'activité, ou en tout cas la continuité de prise en charge des soins, est assurée. Ce qui a été dit, je ne reviendrai pas là-dessus, mais évidemment qu'on vit dans un monde qui est fait de menaces, de risques, et elles sont toutes plus difficiles à contrecarrer. Il faut aussi qu'on soit sûr de nos forces et qu'on soit en confiance. Un hôpital, évidemment que c'est particulièrement déstabilisant d'être cyberattaqué, mais un hôpital et les soignants sont tout à fait capables, et c'est le sens du message de François Braun, sont tout à fait capables de travailler en dégradé, voire en très dégradé. Et c'est vrai pour cette menace, c'est vrai pour d'autres. Il faut vraiment qu'on comprenne qu'il y a tout un travail à faire de préparation des équipes pour être beaucoup plus agile et avoir beaucoup plus de cohésion et de confiance malgré les menaces qu'on évitera. On fera énormément d'efforts, il y aura énormément d'investissements qui seront faits. À chaque fois qu'il y a des nouveaux risques, on travaille, alors on l'a vu sur le Covid, on travaille pour justement essayer de créer des protections, des nouveaux plans et tout. Mais sauf qu'on sait bien que malheureusement, le risque, il sera... Oui, il se mobilisera, il changera un petit peu et on risquera à nouveau d'être confronté à des crises.
Bon, on a le sentiment quand même que ce risque est vraiment insidieux, qu'on a un peu de mal à le contrôler, même si on est armé contre tout cela. Franchement, ça, il faut vivre avec son temps, quoi. Il faut suivre cette technologie. Avant de vous céder la parole, encore une fois, Edouard Riancipel, juste, on va écouter Franck Benizette qui fait partie du syndicat Sud Santé, qui fait le point sur la situation donc dans cette cyberattaque de l'hôpital de Corbeil-Essonnes et qui, pour l'instant, n'a pas énormément d'informations.
On ne connaît pas l'impact de l'attaque. Donc, est-ce que c'est massif et que vraiment c'est très très grave et qu'il n'y a plus rien? Est-ce qu'on va pouvoir sauver quelque chose? On ne sait pas. Donc là, on a demandé, dès ce matin, on a demandé un rendez-vous à la direction pour faire un bilan. Et ce rendez-vous, on l'a à 16h ce soir. Donc... On évaluera avec eux la situation ce soir. Si effectivement ça dure 3-4 jours, l'impact va être limité. Si c'est 8-15 jours, la direction sera probablement amenée à prendre des mesures plus larges.
Concrètement, que se passe-t-il dans l'hôpital Édouard Dorian-Sipel? Je sais que c'est difficile, hein, je vous demande de faire un peu de prospective. Mais est-ce que ça veut dire que tout est figé, tout est éteint, qu'on ne peut rien utiliser, ou au contraire que le hacker peut jouer, même s'amuser avec les patients, les médecins et le service hospitalier?
Je n'ai pas d'informations.
Non, donc c'est bien difficile, sûr.
Mais on peut imaginer le moindre et le pire. C'est-à-dire que tout dépend de la capacité de ceux qui ont porté cette attaque. Il faut quand même comprendre que les entités qui ont le plus de moyens en matière de cyberpuissance, si vous voulez, de cyberattaque, ce sont les États. Et dans l'ordre, c'est les États, ce sont les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni, l'Iran, Israël et la Russie. Ça, ce sont les principaux pays. Là, on a le petit club, hein, VIP, des grandes puissances cybersécuritaires. Tout dépend de la capacité de non seulement de l'attaque, de la puissance des virus qui ont été introduits, et ça dépend aussi des capacités de protection dont pouvait disposer l'hôpital jusqu'à présent. Il y aura probablement des dégâts, mais croyez-moi que l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui doit être, à mon avis, mobilisée dans cette affaire, c'est la moindre des choses, y compris pour vérifier s'il n'y a pas derrière cette attaque des indices d'une entité étatique ou para-étatique ou proche de conditions d'attaque étatique. C'est très difficile de déterminer les auteurs exacts d'une attaque cybernétique, mais ils pourront réparer et conduire à la normale. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que dans le monde qui est le nôtre, qui est un monde du cyberespace, dans la société connectée, dans cette grande révolution numérique et de l'intelligence artificielle, dans la société de demain, les smart cities, les objets connectés où Internet sera partout dans n'importe quel objet du quotidien, ces risques seront de plus en plus présents. La délinquance, la truanderie, et y compris la guerre la plus profonde, se passeront sur les réseaux, se passeront dans
les systèmes d'information, bref, par les objets informatiques. Et par conséquent, la société doit se transformer et se protéger par rapport à ce nouveau risque. C'est un peu comme une nouvelle technologie arrive, il y a aussi du bien et du mal qui va avec. Donc ça dépend des usages. Et donc là, dans la société connectée de demain et surconnectée, ces risques vont grandir. Et par conséquent, il faut faire monter en puissance le niveau de protection. J'appelle tout le monde qui a une organisation, qui a une entité ou qui joue avec Internet au niveau individuel, au niveau d'une organisation, d'une entreprise, d'un cabinet médical, peu importe. Tout le monde doit se protéger. De la même façon que vous sortez de chez vous et que vous ne laissez pas la porte ouverte, vous la fermez à clé, vous garantissez que tout est en sécurité, vous devez faire la même chose avec vos objets informatiques.
Et ça vaut pour les réseaux sociaux aussi qui sont hackés
Les premières donneurs d'informations et de données numériques, c'est
nous-mêmes. Quand on accède, les réseaux sociaux et les smartphones, évidemment. J'aimerais qu'on parte à Mayotte dans quelques instants où Gérald Darmanin est en déplacement. Mais juste une question encore avec vous, Mathieu Langlois, sur la cybersécurité. Parce que ce qui se joue aussi au dehors de nos frontières, en Ukraine notamment, la cybersécurité ou les cyberattaques, forcément, elles doivent exister dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie.
Alors là, je laisserai les spécialistes de la cyberdéfense répondre. Moi, juste à votre question sur comment on soigne dans un hôpital cyberattaqué. Alors, j'espère qu'ils ont coupé. Je pense que ça fait partie de la procédure.
Oui, ils ont dû
cloisonner un peu les choses. Ils ont protégé. Et après, il faut, pour rassurer vos téléspectateurs, heureusement qu'on sait soigner sans dépendance à l'outil informatique. On soigne avec de l'observation, avec des...
Moins facile, moins pratique, moins efficace quand même.
Je peux vous dire, pour l'avoir...
Ça fait hôpital de campagne, sinon.
Très bien, il faut savoir le faire.
Je peux vous donner un cas concret.
Clairement, c'est évidemment pas le progrès dont on attend.
Bien sûr.
Pour vous montrer que c'est pas nouveau, il y a 10 ans de ça, c'est-à-dire en août 2012, la compagnie nationale pétrolière saoudienne Aramco a subi une attaque cybernétique majeure. Qui a détruit, je crois, près de 30 000 ordinateurs de l'entreprise. Ils sont revenus à l'âge du crayon à papier et de la feuille, par tellement l'attaque était foudroyante. Non, ce qu'il faut aujourd'hui, je crois, il faut savoir aussi, parce que ce n'est pas que des menaces à une nouvelle réalité, c'est aussi un champ économique et industriel de grand développement, avec des emplois et du développement et de la richesse.
Bien sûr.
C'est très, très important. Il y a une économie nouvelle là-dessus.
On a conscience que c'est déterminant et décisif.
Un des leaders.
Absolument. Je vous laisse conclure, Mathieu Langlois.
Mais juste, j'imagine très bien ce qui doit se passer dans cet hôpital. Ils sont avec des post-it sur des tableaux blancs, et puis avec un papier et un crayon. Et je suis très confiant, je suis certain qu'ils font un excellent travail. Alors après, évidemment, un hôpital, on sait très bien comment maintenant ça fonctionne. Il faut faire en sorte que ça ne dure pas aussi longtemps que ce que vous avez donné comme exemple.
Absolument. Et si ce n'est que quelques jours, 2 ou 3 jours, ce sera peut-être un moindre mal. Gérald Darmanin, maintenant, transition rapide et parfois un peu brutale, mais c'est un déplacement qui s'est engagé à Mayotte depuis hier. Mayotte, 101e département français. Il a visité un centre de détention aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer qui a rappelé son envie de durcir le droit du sol là-bas afin de lutter contre l'attractivité sociale et administrative de l'île. Explication de Charlotte Gorzala.
Sa priorité, la lutte contre l'immigration clandestine. En visite pour 3 jours à Mayotte, Gérald Darmanin veut faire une exception pour l'archipel et modifier le droit du sol face à une situation qu'il juge préoccupante.
L'un des deux parents devra être régulièrement depuis plus d'un an sur le territoire afin que leur enfant soit reconnu comme français. En clair, il n'y aura plus le même droit du sol à Mayotte qu'il y a sur le reste du territoire français.
Actuellement, le droit du sol nécessite une présence régulière de 3 mois pour l'un des deux parents pour que l'enfant soit reconnu français. Dans le 101e département, selon l'INSEE, près de la moitié de la population n'est pas française, mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île. Le ministre de l'Intérieur souhaite s'attaquer à un autre fléau, les paternités frauduleuses.
Des hommes, soit mahorais, soit étrangers en situation régulière, font des certificats de paternité à des enfants d'immigrés. Il faudra que ces pères prouvent qu'ils entretiennent l'enfant pendant 3 ans et non plus seulement 2.
Ces mesures seront présentées à l'automne prochain dans le cadre du projet de loi immigration.
Lefebvre, donc, pour toutes les explications de ce déplacement du ministre de l'Intérieur à Mayotte, avec cette réforme donc du droit du sol, qui est un sujet particulièrement délicat, mais qui semble, c'est vrai, applicable, William T.
Oui, elle est applicable parce qu'on a le droit de faire des dispositions spécifiques à Mayotte en vertu de l'article 73 de la Constitution. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait ? On le fait notamment parce qu'en fait, en raison de la situation, de la géographie de Mayotte, il y a des personnes qui viennent à Mayotte en raison de la pauvreté et qui bénéficient ensuite après des minima sociaux et du droit social et de la solidarité française. La question que nous, on doit se poser, c'est que, en fait, ce que traverse Mayotte, c'est que Mayotte est à l'avant-garde de ce que va traverser la France dans les années à venir. La France, vraisemblablement, aura la même problématique migratoire avec des sécheresses, des dérèglements climatiques en Afrique qui vont conduire à des mouvements de population vers l'Europe. Mayotte doit servir de fast-test pour nous avant de tester ces mêmes mesures en France. Je pense qu'il faut revenir sur le droit du sol, en tout cas remettre en cause son caractère automatique. On ne contestera pas le droit du sol. Par contre, est-ce qu'il ne faut pas mettre des critères supplémentaires ? Notamment, il faut que la personne entre ses 0 et ses 18 ans n'ait commis aucun acte de délinquance et respecté le parcours républicain et s'est assimilé à la culture française. Et là, on donnera le droit du sol. Je pense que Gérald Darmanin a raison de prendre le sujet de Mayotte parce que c'est demandé par les parlementaires et par les élus de Mayotte et que s'il veut agir sur le réel, il doit commencer par la phase la plus critique qui est la phase test, celle de Mayotte.
Je voudrais vous proposer d'écouter Benjamin Morel qui était invité de CNews aujourd'hui, maître de conférence en droit public à l'Université de Paris 2, qui confirme d'ailleurs, William T., que en effet cette réforme est applicable exclusivement sur un département ou peut-être plus avant sur l'ensemble du territoire si besoin était.
Compliqué tout bêtement parce qu'on a déjà un précédent. La loi Asile et Immigration, la loi Collomb en 2018, instaurait déjà des différences entre Mayotte et le territoire métropolitain en matière d'immigration clandestine et notamment de droit du sol. Donc on a eu à l'époque une décision du Conseil constitutionnel qui actait que, au regard des singularités de Mayotte et des filières d'immigration qui y débouchent, eh bien, on pouvait avoir une singularisation de ce droit du sol. Alors c'est peut-être très discutable du point de vue des principes que cette décision du Conseil constitutionnel. Il y a probablement une départementalisation de Mayotte en 2011 qui a été trop précoce, peut-être assez mal faite, mais de facto, aujourd'hui, d'un point de vue purement juridique, ce n'est pas très très compliqué. Il suffit d'amender ce qui avait déjà été fait par Gérard Collomb.
Alors je vous précise que nous serons avec une députée à Mayotte après 16h pour savoir principalement sur le terrain si cette réforme serait bien accueillie. Néanmoins, sur le fond, Édouard Dorian-Sipel, est-ce que vous trouvez que quand c'est nécessaire, quand l'État estime que c'est nécessaire, est-ce que cette réforme doit être appliquée ?
Je pense qu'elle mérite d'être étudiée, oui. La politique, c'est répondre aux problèmes concrets et de respecter aussi certains principes. C'est pour ça que je trouve que... intéressant que le Conseil constitutionnel permette dans ses décisions, dans cette décision que rappelait Benjamin Morel, une ouverture, une particularité ou une spécificité. Le droit, c'est de l'application concrète. Quand un problème concret se pose, en particulier à Mayotte, je pense qu'il est de la responsabilité du politique, en l'occurrence du gouvernement, d'apporter les solutions. Donc je crois qu'il faut le faire avec calme. Et la seule chose que je souhaite, mais je fais confiance au gouvernement et à Gérald Darmanin, c'est que les choses soient faites tout simplement dans le respect de nos principes constitutionnels, du droit français. Et de toute façon, le Conseil constitutionnel est là pour veiller à la constitutionnalité des lois et des règlements.
On peut expliquer peut-être, William T., pourquoi ça se l'applique principalement aujourd'hui au département de Mayotte. Déjà parce qu'il y a beaucoup de délinquance, d'insécurité, mais aussi une immigration grandissante sur cette île.
En fait, il faut voir quelle est la... Je vous avais mis une carte, ce sera intéressant de remettre la carte.
On va la remettre, bien sûr.
Sur la géographie de Mayotte. Ouais. Et en fait, la situation de Mayotte, et donc le niveau de vie à Mayotte, est tellement attractif qu'en fait, des personnes fuient leur pays d'origine, notamment les Comores, pour venir à Mayotte, notamment pour bénéficier des minima sociaux et des droits alloués à ce qu'on appelle la solidarité nationale. Les minima sociaux, le niveau de vie français, les services publics, etc. Et donc, du coup, les personnes vont à Mayotte pour bénéficier d'un meilleur niveau de vie. Et ce qui se passe en fait, et pourquoi est-ce qu'on remet en cause l'automaticité du droit du sol ? Parce qu'en fait, quand des personnes viennent immigrer à Mayotte, et donc du coup font un enfant à Mayotte, cet enfant est automatiquement français en vertu du droit français. Et ce qui se joue, notamment vis-à-vis de Gérald Darmanin et vis-à-vis du gouvernement, et ce qui s'est passé avec Gérard Collomb en 2018, c'est qu'on veut remettre en cause cette automaticité dans la mesure où, en fait, en droit français, vous avez ce qu'on appelle le principe d'égalité. C'est-à-dire que quand vous faites une loi, la loi doit s'appliquer partout pareil en vertu du principe d'égalité. Ce que veut remettre en cause Gérald Darmanin et ce que veut remettre en cause à l'époque, ce qu'a remis en cause à l'époque Gérard Collomb, c'est le principe d'égalité sur le fait qu'on applique le même droit sur un territoire métropolitain et le territoire de Mayotte. L'article 73 de la Constitution dispose qu'on peut adapter les lois nationales et métropolitaines en raison des disparité et de la situation géographique des territoires d'outre-mer. Et comme Mayotte est un territoire d'outre-mer, on peut mettre des lois et modifier le droit qu'on applique habituellement à la métropole. C'est ce qui s'applique pour les DOM-TOM, ce qui s'applique en partie pour la Corse et d'autres territoires d'outre-mer.
On parle encore de Mayotte dans quelques instants. On marque une pause. La réforme du droit du sol, donc envisagée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On en parle avec nos invités juste après la pause. À tout de suite. CNews, 90 minutes info en direct, bien sûr, les débats qui continuent sur Mayotte, notamment dans quelques instants, mais aussi sur l'immigration. Mais d'abord, un point sur l'actualité avec vous, Jeanne Cancard.
C'est l'un des plus grands hôpitaux d'Île-de-France. Le centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes est victime d'une cyberattaque depuis samedi soir. Conséquence, les urgences fonctionnent mais au ralenti. Le ministre de la Santé, François Braun, s'est exprimé à ce sujet. C'est un acte inqualifiable. Ses auteurs seront poursuivis, a déclaré le ministre. Retour sur ce qui s'est passé avec le secrétaire général du syndicat Sud-Santé.
On ne connaît pas l'impact de l'attaque. Donc est-ce que c'est massif et que vraiment c'est très très grave et qu'il n'y a plus rien? Est-ce qu'on va pouvoir sauver quelque chose? On ne sait pas. Donc là, on a demandé, dès ce matin, on a demandé un rendez-vous à la direction pour faire un bilan. Et ce rendez-vous, on l'a à 16h ce soir. Donc on évaluera avec eux la situation ce soir. Si effectivement ça dure 3-4 jours, l'impact va être limité. Si c'est 8-15 jours... La direction sera probablement amenée à prendre des mesures plus larges.
À 10 jours de la rentrée scolaire, un cri d'alerte lancé par une association. Selon l'UNAPI, 18% des enfants handicapés en France n'ont aucune heure de scolarisation par semaine. Une situation dramatique dénoncée par la directrice de l'organisation dans le Val-de-Marne.
Nos établissements, en n'ayant pas les moyens d'offrir un niveau de scolarisation suffisant, on est vraiment dans une situation de perte de chance. Certes, la vertu les missions d'un établissement médico-social ne sont pas centrées uniquement sur la scolarisation, la pédagogie et les apprentissages scolaires. Pour autant, nous ne disposons pas des moyens suffisants pour permettre à chaque enfant d'avoir un taux de scolarisation digne de ce nom.
Quelques jours après les orages meurtriers qui ont frappé la Corse et qui ont fait 5 morts, le conseil exécutif de Lille appelle à tirer d'indispensables leçons. Avec une question principale en ligne de mire, était-il possible d'anticiper cet orage d'une violence exceptionnelle? Les détails sur place avec notre correspondante Christina Luzzi.
Après le temps de la gestion de crise, vient maintenant celui indispensable de l'analyse de fond et du retour d'expérience, insiste le conseil exécutif de la collectivité de Corse dans un communiqué paru ce dimanche, se demandant notamment si on aurait pu mieux anticiper l'arrivée de cet orage d'une violence exceptionnelle. L'instance dirigeante réfléchit notamment à la mise en place de bouées de mesure au large de la Corse, qui aurait peut-être permis de détecter la violence de la tempête avant qu'elle ne déferle sur les côtes. Dans son texte, le conseil exécutif de Corse se demande également si les baisses des effectifs au sein de Météo France ont diminué la qualité de la surveillance, notamment en période nocturne. Pour rappel, jeudi, alors que la Corse était en vigilance jaune, Météo France avait augmenté le niveau en orange quelques minutes seulement avant que les rafales ne viennent frapper les côtes vers 8h30. De passage en Corse, jeudi et vendredi, dans les campings frappés par la tempête, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait promis que, comme toujours, une enquête serait commandée à la sécurité civile pour permettre de répondre à toutes ces questions. Et ces conclusions devront être rendues publiques dans les meilleurs délais, a insisté le conseil exécutif de Corse.
Se dirige-t-on vers une nouvelle vague de chaleur? Un nouveau pic est en tout cas attendu ce mercredi. Les températures les plus élevées seront atteintes en Midi-Pyrénées avec 36 degrés prévus. Un épisode qui ne devrait toutefois pas durer suffisamment longtemps pour être qualifié de canicule.
A tout à l'heure pour un prochain point sur l'actualité dans moins de 30 minutes maintenant. Nous sommes toujours en plateau dans 90 minutes info sur CNews avec William T, Eduardo Rian-Sipel et Mathieu Langlois. On évoque encore une fois ce déplacement de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, à Mayotte avec cette réforme du droit du sol. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moyens qui ont été engagés sur l'île. C'est vrai, on en parlait avec William tout à l'heure, où la délinquance est assez importante. Votre sentiment d'abord, Mathieu Langlois, sur cette réforme et surtout sur l'action du ministre qui entend encore une fois densifier le spectre assez large, c'est vrai, de son périmètre.
Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit William, c'est une plaisanterie que je vais faire, mais faudrait peut-être fermer les maternités de toute l'île, et puis ça réglerait
le problème.
Parce que moi, j'ai des amis qui ont travaillé à Mayotte depuis des années, je parle de ça il y a 15-20 ans, ils décrivaient déjà un flux migratoire sanitaire de très nombreuses femmes qui venaient des Comores pour accoucher à Mayotte et qui le faisaient pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que ce qui allait les intéresser, c'était la qualité des soins qui allaient leur être offerts. Et qu'évidemment, ça pose des questions que j'entends à travers les différents reportages. Mais toutes les évolutions qui seront données, il y a une dimension humaine. C'est le médecin qui vous parle, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas, et on a ça en France, dans la métropole, mais on l'a ça encore plus dans des coins très avancés comme Mayotte, qui est exposé au flux des Comores. Quid ensuite de toutes les évolutions qu'on donnera qui ne seront pas répercutées sur le plan de la dimension humaine? Demander à des soignants, entre guillemets, de refuser des accès aux soins, c'est, je vous le dis, c'est quasi impossible.
Possible, bien sûr.
Et donc, évidemment, je comprends très bien les élus locaux et leurs demandes. Elles sont sans doute justifiées, mais il faut prendre toute la dimension humaine dans son ensemble, parce que sinon, à mon avis, les réformes, enfin les évolutions, n'auront que des mauvaises conséquences.
Ouais. En tout cas, dans ce cadre-là et sur le cas que l'on décrit, Edouard Dorian-Sipel, cette réforme semble nécessaire. Elle fait l'unanimité?
Je ne suis pas sûr qu'elle fasse à la fin l'unanimité. Surtout quand je regarde la photographie de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais c'est heureux aussi qu'on puisse avoir une opposition. Mais cette boutade mise de côté, je dirais qu'il y a une réalité, il y a un problème. Il y a un problème à Mayotte, parce qu'il y a effectivement une réalité de pauvreté autour de ce nouveau territoire français. Quand on a les chiffres, il y a cette réalité de un étranger sur deux vivant sur cette île territoire français. Donc il y a des problèmes qui ne sont pas ceux de la métropole et qui sont peut-être même pas ceux des autres territoires d'outre-mer. Donc je crois que ça appelle en tout cas une forme de règlement, une forme de règlement par l'autorité publique. Je souhaite simplement que les choses se fassent dans l'ordre républicain, dans l'ordre constitutionnel du pays. Si on peut adapter les choses, tant mieux pour répondre à un problème ponctuel. Mais je crois que c'est la seule condition. Et je crois que d'ailleurs, c'est la bonne méthode pour régler tous les problèmes du pays. Moi, je fais confiance au Conseil constitutionnel, je fais confiance aussi au gouvernement pour trouver les bonnes solutions, les adaptations nécessaires, sans qu'on rompe ou qu'on crée une France à deux vitesses.
Est-ce uniquement le phénomène d'immigration, William T., qui provoque ces chiffres inquiétants, alarmants sur l'île de Mayotte en matière d'insécurité et de délinquance?
Il n'y a pas que l'immigration. Faut pas tout mettre sur le dos de l'immigration. Il y a des problèmes qui sont très profonds dans tous les territoires d'outre-mer. On a des sous-retards d'investissement dans tous les territoires d'outre-mer. On a eu des problèmes dans les hôpitaux. Ça a été révélé par la crise sanitaire où on a vu qu'ils se partageaient des hôpitaux entre différentes îles, etc., notamment en Martinique et en Guadeloupe. Il y a des difficultés notamment en termes d'investissement, en termes de services publics. L'économie est très en retard et est assistée en fait par la solidarité nationale, notamment par les investissements faits par Paris directement, même si ces retards ne sont pas suffisants. Mais en tout cas, l'île ne tient que dessus, comme d'autres territoires d'outre-mer. Donc je pense qu'il y a d'autres soucis. La question essentielle qu'on doit se poser sur Mayotte et sur le territoire français, même sur tous les territoires d'outre-mer, c'est effectivement, il faut prendre les problèmes un par un. Est-ce que l'immigration cause tous les problèmes que nous rencontrons actuellement? Non. Par contre, est-ce que stopper la vanne migratoire permettra d'en résoudre une partie? Oui, essentiellement. Je vais prendre un chiffre qui va illustrer ça. La France, c'est 1% du PIB mondial, mais c'est 9 à 10% des dépenses sociales dans le monde. C'est intenable. Le modèle social français est en faillite. On ne peut plus payer. On ne paiera plus. Et les Français n'ont plus de consentement à l'impôt. On l'a vu lors de la crise des Gilets jaunes, auquel on a augmenté 10% les prix du carburant, de 10 centimes, pardon, les taxes sur le carburant. Et une révolte qu'on n'a jamais connue depuis des dizaines d'années. Et donc, vous voulez continuer à demander à la solidarité nationale en augmentant leurs impôts alors qu'on est étranglé par l'inflation, par la crise économique, bientôt financière et éventuellement monétaire, de continuer à payer, ils ne voudront plus payer. Et c'est pour ça que les élus de Mayotte, principalement, et tout le monde est réuni, gauche-droite, tout le monde est réuni sur la même question à Mayotte, ils veulent stopper la vague migratoire pour ensuite, après, qu'on utilise de l'argent, non pas pour faire une solidarité dans le monde entier, mais principalement utiliser l'argent qu'on dirige vers Mayotte, vers la restauration des services publics, pour améliorer le niveau de vie économique de Mayotte et sur tous les autres sujets. Tant qu'on aura une vanne qui continuera à alimenter ce qu'on appelle la solidarité mondiale, on ne pourra pas reconstruire Mayotte. Et je pense que c'est le point essentiel, et c'est ce que demande Mayotte. Et donc, du coup, on a un sujet essentiel qui se pose à Mayotte. Est-ce qu'on met un terme au droit du sol ou pas? Et ensuite, après, on aura un deuxième sujet. Et je pense que c'est pour ça que Mayotte est à l'avant-garde de la France. Le même sujet se posera sur la France.
C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que Mayotte est un laboratoire aujourd'hui en matière de politique d'immigration, sur cette réforme du droit du sol, mais aussi de politique sécuritaire, dont on va parler dans quelques instants sur l'action de Gérald Darmanin?
Moi, je pense que la chose essentielle qu'on doit définir, il faut être clair, il ne faut pas faire d'amalgame. Toutes les immigrations ne causent pas de problème en France. Le souci en France, c'est qu'on n'a pas su choisir qui on accueille et qui on refusait d'accueillir. Quand vous prenez la politique migratoire des États-Unis, vous savez comment ils accueillent les personnes qui vont aux États-Unis. Pareil au Royaume-Uni, pareil en Chine, pareil au Japon. Quelle est la politique migratoire de la France? Moi, je pense que la politique migratoire de la France se résume par un sujet qui est simple et une phrase qui est simple. C'est qu'on exporte nos bacs plus 7 pour importer des bacs moins 5. C'est une stupidité sans nom d'un point de vue économique. Il n'y a aucun État qui ferait ça dans le monde. L'OCDE montre notamment que sur la part des non-diplômés en France, en provenance de l'immigration, est la plus importante des pays de l'OCDE. Et comment vous pouvez accueillir des populations qui sont sans qualification alors que vous rencontrez déjà des problèmes de chômage de masse auprès des personnes sous-qualifiées? C'est une aberration économique. Donc je pense que le sujet essentiel, c'est de faire en sorte que les personnes qui viennent sur le territoire français fassent les demandes d'asile et de demandes de visa à l'extérieur du territoire via ce qu'on appelle les hotspots, donc les ambassades et les consulats, sauf si le pays est en guerre. Ensuite, après, on doit remettre en cause différents traités, différentes dispositions, comme l'a rappelé Gérald Darmanin, et comme il doit faire face à l'imam Hussein, notamment l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour augmenter le nombre d'OQTF. Et une fois qu'on dit qu'on a une politique migratoire claire, c'est-à-dire que nous, on souhaite accueillir des chercheurs, des scientifiques, des Indiens ou je ne sais quelle région du monde, mais qui apportent quelque chose sous deux principes. L'intérêt national, vous venez en France parce que vous apportez quelque chose au pays. Et deuxième point, c'est l'assimilation à la culture française. Une fois qu'on met ça en place, comme tous les autres pays le font, eh ben on arrivera et vous verrez que les Français n'auront plus de problème avec la politique migratoire et les personnes d'origine d'émigrés.
Je reformule la question pour vous, Eduardo Riancipel, puisque si Gérald Darmanin est à Mayotte aujourd'hui, s'il a engagé beaucoup d'actions, s'il y a cette réforme également en préparation, et on l'a entendu tout à l'heure et on l'a vu, elle peut s'appliquer très, très rapidement. Est-ce qu'il pense éventuellement à développer cette idée, cette philosophie, cette politique un peu plus loin, géographiquement parlant, sur la métropole notamment?
Je ne le sais pas. Je ne sais pas quelles sont ses intentions.
Est-ce que c'est un scénario, en tout cas, qui serait plausible?
Mais je ne crois pas
que vous accepteriez.
Je ne crois pas du tout que Mayotte puisse préfigurer un chemin pour la France tout entière. Je pense que la situation de Mayotte est si particulière.
Très différente de la métropole.
Par définition. En grande partie. Donc je ne vois pas pourquoi une situation ultra particulière viendrait déterminer quelque chose pour toute la nation. Ce serait idéologique, ça voudrait dire qu'on aurait envie d'en finir avec le droit du sol, et là je serais en désaccord profond.
Non, mais c'est une question.
Pourquoi? Parce que c'est la tradition de la France depuis la Révolution française. Hein, ça ne peut pas être le pays uniquement du droit du sang. On est en France, donc on a le droit à la nationalité française. C'est à la fois le droit du sang, donc la transmission, si vous voulez, de parents. Si vous naissez de parents français à l'étranger, vous avez le droit, ou l'un des parents français, vous avez le droit à la nationalité française. Si vous naissez en France de parents français ou de parents étrangers, vous avez le droit à votre majorité à la nationalité française. Non, et je trouve que c'est un bon système.
C'est pas le cas à Mayotte. Ce que veut Gérald Darmanin, c'est que l'un des deux parents doit rester au moins un an sur le territoire pour que l'enfant ait la nationalité française.
Moi, je n'ai pas peur de ça. Hein. La France, quand elle est forte, quand elle est grande, quand elle est belle et désirée, elle
ça.
Sait accueillir
c'est
et elle accueille et précisément les personnes qui peuvent apporter quelque chose. Elle est attractive.
Non, alors,
et ensuite, pardon, ceux qui veulent nous faire croire qu'on n'a pas besoin d'une immigration aussi peu qualifiée, parce qu'il faut dire les choses, il faut arrêter l'hypocrisie. Allez voir qui fait les routes tôt le matin en France, dans le BTP, les travaux publics. Allez voir qui c'est qui est dans les restaurants pour nous cuisiner, y compris de la gastronomie française. Regardez les emplois. Pas du tout. Je pense que statistiquement,
il n'y a
pas du tout.
C'est des Français d'origine immigrée, ce n'est pas des immigrés.
Pas du tout, je pourrais vous faire plutôt...
C'est des Français d'origine immigrée,
pas du tout, pas uniquement. Pas uniquement. Pas uniquement. La France a joué énormément sur une immigration peu qualifiée pour prendre les emplois que les Français n'étaient plus... qui n'avait plus envie de le faire, des travaux durs, difficiles. Donc moi, je suis favorable à un débat à l'Assemblée nationale tous les ans, au Parlement
tous les ans, d'accord, sur le niveau d'immigration économique. Moi, j'ai pas peur de dire on a peut-être plus besoin de ce profil-là, et de faire venir des ingénieurs, de ceci, de cela. Oui, je suis favorable à ça. Mais de grâce, ne faisons pas d'hypocrisie avec l'immigration peu qualifiée qui est ultra utile au pays. Elle a été parmi celles et ceux qui étaient les invisibles ou dit les essentiels qui ont permis que le pays tourne pendant le confinement.
Oui, Yann, alors où est la frontière de l'hypocrisie dont parle Édouard Dorian-Sipel ?
C'est pas vrai parce qu'en fait, Édouard Dorian-Sipel, que j'aime bien par ailleurs, fait un amalgame. Quand il voit des personnes, c'est-à-dire, faut nommer les choses, c'est-à-dire de couleur ou d'origine étrangère, ils confondent ça avec des étrangers.
Je vais arriver aux chiffres.
Moi, je sais que vous l'êtes pas, mais votre propos est quasiment raciste. Je vais expliquer pourquoi. Parce que quand vous faites l'immigration de travail, l'immigration annuelle, vous êtes entre 175 000 par an à 275 000 par an. Vous avez 20 000 travailleurs immigrés sur les 200 000. Et donc, vous imaginez que dans tout le secteur de la restauration, dans le nombre de BTP et dans tous les secteurs qu'on dit de travail manuel, vous pensez qu'avec 4-5 millions de travailleurs, avec les 20 000, vous arrivez à 5 millions d'immigrés. C'est
pas
possible.
On n'a pas dit ça.
Donc, faut pas faire d'amalgame. C'est des Français d'origine immigrée. Et ce qui n'est pas pareil parce qu'ils sont français.
Je pense qu'il y a beaucoup de Français.
Ensuite, après, sur la réponse.
Ils sont étrangers.
Non, mais c'est
les statistiques.
Les statistiques le donnent, c'est 20 000.
Je vous fais une confidence. Il y a même des clandestins qui travaillent dans les restaurants ou même sur les.
Pas tous sur les chantiers de travaux publics. Intelligiblement tous les deux. Alors, je vous laisse conclure.
C'est 20 000.
William, après, Edouard, je vous donne la parole et j'aimerais quand même entendre aussi Mathieu Langlois.
Le sujet essentiel, et Gérald Darmanin l'a rencontré notamment sur la tentative d'expulsion de l'imam Iqiyoussen. C'est pas de vouloir dire que tous les immigrés sont mauvais et qu'on ne souhaite pas accueillir tout le monde. C'est de savoir qui on accueille sur notre sol. Et la France doit arrêter de subir l'immigration, mais de choisir l'immigration afin d'avoir un modèle qui est cohérent, une politique nationale qui est cohérente. Parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. On doit accueillir les personnes qui, en fonction de nos intérêts, et qui veulent venir en France parce qu'ils aiment la France, parce qu'ils veulent s'intégrer et ils veulent apporter au pays en travaillant, mais dans une vie correcte.
Et je rappelle aussi,
Edouard Dorian-Sipel, Mathieu Langlois, on continue sur l'immigration, mais sur un spectre plus large, national.
On a le droit, à un moment donné, de voir quels sont nos besoins, de déterminer le niveau de qualification. Ça me semble logique. C'est pas raciste d'essayer de le penser comme ça, surtout si on le fait dans le cadre des institutions françaises et des règles françaises. Mais je rappelle aussi que le droit aux réfugiés politiques, ça reste un droit français.
Ça, c'est différent.
Ah oui, mais vous ne l'avez pas noté, vous ne l'avez pas signalé. Vous avez dit, on prend simplement ceux qui répondent à nos intérêts. Non,
on
joue notre part de solidarité pour les réfugiés politiques.
L'asile, ça reste l'esprit de la France.
Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que pour les demandes, j'ai dit dans les demandes, dans les ambassades, sauf les pays en guerre.
Mathieu Langlois, votre sentiment peut-être pour départager.
Non, mais alors, moi, je vais jouer au moine bouddhiste. Je vais essayer de réconcilier mes deux camarades.
Vous allez y arriver, j'en suis persuadé.
Fâché, hein.
Non, je sais que vous n'êtes pas fâché. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'une action gouvernementale efficace, William l'a dit, que ce soit à Mayotte ou que ce soit sur le territoire, et les sujets ne manquent pas. Mais clairement, et ça va un peu rejoindre ce que disait Eduardo, il faut une action qui soit juste. Pour qu'elle soit juste, il faut qu'elle soit forte. Mais avec beaucoup d'empathie ou d'humanité, sinon clairement, à mon avis, ça ne marchera pas et j'aurai du mal à vous réconcilier.
Alors en tout cas, il y a un lien, même s'il est ténu, on l'a lu notamment dans les colonnes du JDD hier, dans l'interview qu'a donné Gérald Darmanin, entre l'immigration et la délinquance. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué d'ailleurs sur cette antenne. Et sur le sujet principalement de la sécurité, Gérald Darmanin veut intensifier son action. On ne parle pas que de Mayotte, là, maintenant. On parle vraiment du ministre de l'Intérieur. Je vous cède la parole dans un instant. Il serait idiot de ne pas dire qu'il y a une part importante de délinquance qui vient de personnes immigrées. Un étranger qui fait un acte de délinquance doit être expulsé très vite. Voilà ce que dit Gérald
Darmanin. Il y a un lien, cher Lionel Rousseau.
Ça me semble évident.
Il y a même une forme
de contradiction dans ce que dit Gérald Darmanin.
C'est intéressant ce que vous dites et merci parce que ça permet au moins de distinguer les choses. Je viens de lire ce que dit le ministre de l'Intérieur. Je partage, il y a une part de la délinquance qui est due à des immigrés. Très bien, c'est un constat de fait. C'est un jugement de fait et pas de valeur. Et, or, si vous dites il y a un lien entre immigration et insécurité ou entre immigration et délinquance, vous faites un lien qui est un jugement de valeur. Vous dites il y a un lien de nature entre l'immigration et la délinquance.
Aussi dans les villes, à Paris, à Marseille.
Non, mais pardon, je vais le dire très simplement de manière factuelle. Il y a des délinquants immigrés et il y a des délinquants français.
Point évidemment, bas. Non, non, mais voilà. Évidemment. Enfin, mais
dire qu'il y a un lien entre immigration et insécurité, c'est
chiffre.
Faux.
Édouard Dorian Sipel, fait délinquance commise par des étrangers, 55% à Marseille, 48% à Paris, 39% à Lyon. On est en train de parler des plus grandes villes de France.
C'est à peu près équivalent, hein. C'est à peu près équivalent, pardon.
C'est à peu près équivalent, oui, non, mais il y a un lien.
C'est à peu près équivalent.
On ne dit pas.
C'est la même part de population.
On ne dit pas, évidemment, que c'est 100%.
Bah, à ce moment-là, il faudrait faire un lien. Non, non, mais tout ça, c'est pas des liens de cause à effet. Pardon. Moi, je me prends un peu à l'esprit critique et scientifique. C'est comme si je disais, à ce moment-là, faudrait dire, il y a un lien entre la délinquance et les grandes villes. Plus il y a de population, plus il y a de délinquance. Ça, vous pouvez faire un lien. Mais de là à essayer de m'expliquer que... Non, mais ça, c'est comme si je disais il y a plus de vols de radio. Ça, un scientifique ou un mathématicien pourrait vous expliquer ça. On ne peut pas mettre toutes les choses en rapport.
Moi, je pense que c'est surtout de l'interprétation.
Je dénonce une chose qui est le discours de la droite et de l'extrême droite. C'était le discours de Valérie Pécresse, mais c'était aussi le discours de Mme Le Pen et de M. Zemmour. Dire qu'il y a un lien entre l'immigration et l'insécurité, entre l'immigration et la délinquance, c'est faux. Parce que ça voudrait dire qu'il y a un lien de nature, d'essence. Immigration n'est pas égale à insécurité.
Oui. Non, non, mais attends, c'est pas
qu'il y ait des immigrés qui soient délinquants. Bon, bah,
ce n'est pas aussi statutaire et imposé que cela. On n'est pas en train de parler de 100% des étrangers qui sont sur le sol français.
Parce que ça, ce serait aller vers l'essentialisme.
C'est juste un chiffre statistique et aussi ce que dit la loi.
C'est pas simplement qu'il y a à voir avec les grandes villes.
Mais sur le sujet de la sécurité, Gérald Darmanin, je vous lisais, veut intensifier son action, notamment sur les procédures d'expulsion qui peuvent concerner les mineurs délinquants également. Français ou étrangers, que dit la loi ? Les explications d'Alexis Vallée.
Une procédure d'expulsion, une décision administrative qui concerne un étranger de plus de 18 ans, vivant irrégulièrement en France, ou représentant une menace grave pour l'ordre public. La menace est évaluée en fonction du comportement, comme des violences, du trafic de drogue, ou encore une incitation au terrorisme. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Seul un préfet ou le ministre de l'Intérieur peut prendre cet arrêté. La procédure d'expulsion peut être exécutée immédiatement, même si un recours est déposé. Seul le refus du pays d'accueil peut contrevenir à cette mesure. L'étranger voit son titre de séjour lui être retiré. Il peut être contraint par la force de monter dans un moyen de transport sous escorte policière. Il peut être placé en centre de rétention pendant l'organisation de son retour. Et s'il est déjà incarcéré, il sera expulsé dès la fin de sa peine. L'intéressé peut toutefois saisir le juge administratif pour annuler la décision. S'il est expulsé, il ne pourra plus venir en France, sauf si la mesure d'expulsion est abrogée par l'administration elle-même.
Mathieu Langlois, votre sentiment également sur ce lien, ça fait vraiment débat, mais cela préoccupe aussi une grande partie des Français sur ce lien que l'on fait. Ou pas, à tort ou à raison, ça évidemment on est là aussi pour en débattre, entre immigration et insécurité.
Alors vous avez montré des chiffres, c'est des statistiques. Alors nous, par exemple, en médecine, il faut savoir qu'on depuis très longtemps, toujours, on travaille beaucoup sur les statistiques pour faire évoluer la médecine. Et on sait aussi, pour avoir même fait pas mal de publications, que les statistiques, on peut manipuler, entre guillemets, non pas forcément les chiffres, mais l'interprétation qu'on va donner aux chiffres en fonction du message.
Ça ne crée pas nécessairement une relation entre de chiffres de côte.
Alors une fois qu'on a dit ça,
côte à côte.
Par contre, évidemment, on voit qu'il y a des biais énormes dans l'interprétation qu'on va se faire. Déjà rien que sur le plateau, l'interprétation des chiffres
est différente pour tout le monde.
Notre ressenti personnel est différente entre nous quatre. Donc ça laisse imaginer sur l'ensemble de la population.
Bien sûr.
Ce que ça montre juste, c'est que en plus les chiffres, ils sont quand même, il y a rien de catégorique. Mais ça veut dire qu'il faut être ni dans le déni, ni dans le raccourci en utilisant en plus des chiffres, en disant qu'il y a un lien évident entre délinquance et immigration. Mais à l'inverse, s'opposer à ça, enfin s'opposer à ce qui est un lien qui soit étudié, c'est quelque chose qui, de toute façon...
Même rompre un tabou, parlons un peu des choses, des nationalités, des... y a une délinquance qui est typique de populations qui viennent de pays de l'Est. Parce qu'il y a de la criminalité organisée, il y a de la mendicité organisée aussi, il y a de la mendicité tout court, et vous avez des personnes qui sont de nationalité bulgare, macédoine, etc. Voilà, donc ça c'est l'expérience aussi concrète des Français, mais ce sont des Européens. sont des Européens. Ce n'est pas l'immigration à laquelle on va immédiatement penser. Oui, et ce n'est pas nécessairement des immigrés.
Ils ont droit de l'immigration. Voilà.
Donc, moi, je veux bien qu'on parle des choses, mais je pense que si vous pensez qu'on va lutter contre l'insécurité en luttant contre l'immigration, ça, c'est pour les Don Quichotte qui se battent contre des moulins. Ça, c'est une fausseté de l'esprit. Si vous voulez combattre la délinquance, il faut combattre la délinquance là où elle naît et les causes de la délinquance.
C'est ce que j'aimerais soumettre à
vous. Vous attaquez à l'immigration, vous aurez moins d'immigrés, c'est tout. Mais vous n'aurez pas nécessairement moins de délinquants.
William T. dans un instant, mais ce que j'aimerais soumettre à votre sagacité, c'est la proposition sur CNews ce matin de Franck Louvrier, le maire de La Baule, qui lui dit, je trouve que le terme est lourd de sens, mais en tout cas, il l'a prononcé. Lui, il parle, dans ce cadre-là, de politique de quotas.
Bon, je pense qu'il faut qu'on assume notre immigration. C'est tout l'enjeu sans doute du projet de loi et de la discussion qu'il y aura à l'automne. Il faut qu'on assume notre immigration. Par exemple, il faut qu'on ait une politique de quotas, une politique de quotas transparente, assumée, qui soit discutée au Parlement et qui puisse permettre de dire voilà, on a besoin de tant de personnes à un moment donné de notre période économique, un peu moins à une autre. On le voit bien, par exemple, dans certains secteurs, je vois ici à La Baule, on a un problème à la fois de médecins, on a un problème à la fois de personnel dans le monde du tourisme. Peut-être que sur cette période-là, il va falloir accueillir des personnes qui viennent de l'étranger. Puis sur d'autres périodes, quand on est plus en crise économique, on en a moins besoin. Donc je pense que les choses doivent être assumées de façon transparente et démocratique.
William T., le lien n'est pas fait uniquement avec l'insécurité, mais aussi avec le paramètre économique. Mais politique de quotas, le terme fait un peu peur. Moi, ça me fait un peu trembler quand on dit établir une politique de quotas.
Il faut l'expliquer. Je vais faire le lien avec les deux sujets. Ce serait faux de dire que tous les immigrés sont des délinquants. Par contre, ce qui est vrai, et les chiffres le montrent, c'est que parmi les délinquants, beaucoup sont étrangers. Et ça, c'est clair. On n'a pas de statistiques ethniques en France sur les Français, donc on n'aura pas une question d'origine. Mais en tout cas, via les statistiques qu'a données Darmanin, on peut dire que parmi les délinquants, il y a beaucoup qui sont étrangers. Et ça, c'est irréfutable, c'est les faits qui le montrent. Sur la question de la politique de quotas, je pense qu'elle doit être double. Elle doit être sur des questions de critères thématiques, économiques, familiales, etc., donc auxquels on met des quotas en fonction des besoins et par rapport à l'intérêt national qu'on défend. Et également, il ne faut pas avoir peur de le dire, comme l'ont fait les États-Unis, il faut mettre des quotas géographiques. C'est-à-dire qu'on a un problème, notamment dans les territoires perdus de la République, et c'est ce qu'ont fait notamment les États-Unis pour permettre d'assimiler davantage de populations. Ça veut dire que ce que raconte Christophe Guillouis dans le temps des gens ordinaires, c'est qu'en fait, on met les mêmes personnes et qui viennent du coup en France, s'insèrent dans les mêmes communautés, et du coup ne sortent pas de leur communauté et ne s'intègrent pas à la communauté nationale, et donc sont soumis à ce qu'on appelle dans les territoires perdus de la République, soit la loi des gangs, soit la loi des grands frères, parce que c'est des familles nombreuses, etc., et que les parents n'ont pas le temps de s'occuper des gamins. Je pense que c'est indispensable, pour permettre l'assimilation et la question de l'intérêt national, de mettre des quotas, au moins sur les thématiques. Admettons qu'on ait besoin de 10 000 ingénieurs, on dit la France a besoin de 10 000 ingénieurs, mais également se pencher sur la question des origines des pays de provenance. Il y a des pays auxquels, pour l'instant, on aura des difficultés à assimiler parce qu'on a déjà beaucoup de personnes dans la communauté nationale qui viennent de ces origines-là. Et il faut d'abord intégrer toutes ces personnes-là avant d'en accueillir davantage. Et il y a des personnes, et il y a des communautés qui sont plus simples à intégrer que d'autres. Édouard Dorian-Sipel parlait des pays d'Europe de l'Est. Je pense qu'il est plus simple d'intégrer un Danois que quelqu'un d'Europe de l'Est, tout simplement. Et donc, du coup, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut mettre en place un double quota par thématique et par pays de provenance.
Parce qu'il y a un phénomène culturel aussi. C'est un peu la théorie des climats de Montesquieu, en quelque sorte.
Je vais vous prendre un exemple.
Mais oui.
Il vous aura pas échappé que mes parents sont d'une certaine origine ethnique. Je pense que c'est plus simple. Eux, au départ, on fuit la Chine. Enfin, mes grands-parents du côté paternel ont fui la Chine pour aller au Cambodge. C'est plus simple de s'assimiler d'aller au Cambodge quand vous êtes chinois.
Bah, il y a des similarités. Regardez le beau français que vous êtes devenu.
Il y a des similarités culturelles. Il y a des communautés auxquelles c'est plus simple de s'intégrer d'autres. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes ne sont pas intégrables. Mais il y a des pays qui sont plus simples à intégrer que d'autres et d'autres qui demanderont plus d'efforts auxquels on a besoin de plus de temps. Et pour avoir plus de temps, on a besoin de mettre en place d'abord des quotas pour intégrer des personnes, mais moins que prévu.
Il y a des Brésiliens qui peuvent être assimilés français aussi. Et dans Riancipel, vous ne me démentirez pas. On marque une pause, on se retrouve avec nos invités dans quelques instants, une demi-heure encore avec 90 minutes info, le point sur l'actualité bien sûr, et d'autres débats à venir sur CNews. À tout de suite. Ravi de vous accueillir dans 90 minutes info. Si vous nous rejoignez sur CNews, bien sûr, 30 minutes encore d'actualité et de débat, et un point sur l'information avec vous, Jeanne Cancard.
Six mois après le début du conflit en Ukraine, l'Union européenne envisage d'augmenter encore son soutien militaire en envoyant une mission de formation de l'armée ukrainienne. Elle se déroulerait dans les pays voisins, une proposition discutée la semaine prochaine à Prague lors du Conseil des ministres de la Défense de l'Union européenne. C'est l'un des plus grands hôpitaux d'Île-de-France. Le centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes est victime d'une cyberattaque depuis samedi soir. Conséquence, les urgences fonctionnent mais au ralenti. Le ministre de la Santé, François Braun, s'est exprimé à ce sujet. C'est un acte inqualifiable. Ses auteurs seront poursuivis, a déclaré le ministre. Les auteurs qui demandent une rançon de 10 millions de dollars. Deux cyclistes hospitalisés en urgence absolue après une attaque de frelons dans le département de la Loire. Les deux hommes ont été piqués par une cinquantaine de fois hier matin. Un troisième individu, lui, en urgence relative, a aussi été victime de ces insectes.
On se retrouve donc pour nos grands débats avec nos invités, Édouard Orian-Sipel, William T, toujours avec nous, Mathieu Langlois et Gauthier Lebret qui nous a rejoint du service politique de CNews. Soyez les bienvenus, on va évoquer dans un instant la rentrée politique très attendue du gouvernement et notamment d'Emmanuel Macron. Mais d'abord, on se penche encore un petit peu sur la fameuse affaire Colantes. Pas la peine de résumer, je pense que tout le monde a suivi cette actualité, ce jeu organisé dans la prison de Fresnes entre détenus et surveillants. Mais l'interrogation aujourd'hui porte surtout sur le degré de responsabilité du ministère de la Justice et notamment d'Éric Dupond-Moretti qui lui affirme, d'ailleurs il l'a fait très vite et il l'a fait savoir très vite, ne pas avoir eu connaissance de ses activités. Néanmoins, et on va en débattre, cela semble difficile à croire pour beaucoup, notamment pour Linda Kebab, la déléguée nationale unité CSGP, SGP qui était l'invitée de Laurence Ferrari ce matin sur CNews.
Il n'y a pas de possibilité qu'une activité pareille puisse être organisée dans un établissement pénitentiaire sans que les services de communication du ministère puissent donner sa validation, premièrement. Et donc, ça peut aller même jusqu'au cabinet, puisqu'on sait très bien qu'il peut y avoir un effet extrêmement important auprès de l'opinion publique. Donc, de laisser croire qu'il n'était pas au courant, c'est faux. Tout est calculé minutieusement. On parle quand même d'un établissement pénitentiaire. Je rappelle juste que dans les établissements, les avocats n'ont même pas le droit de rentrer, à juste titre, avec leur cordon de chargeur d'ordinateur.
Ils sont fouillés de façon...
Bien sûr. Et vous allez nous faire croire qu'on a fait rentrer des kartings et des personnes de l'extérieur sans que le ministère de la Justice n'ait donné son accord. C'est impossible.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments contradictoires, mais en tout cas qui vont aussi dans le sens, Mathieu Langlois, du fait que le ministère, en tout cas des entités du ministère de la Justice, étaient forcément au courant. C'est pas possible de faire entrer des kartings, une piscine, une équipe de production de télévision dans une prison sans des autorisations. Enfin, je l'espère, en tout cas.
Alors, il y avait sûrement, en tout cas, à l'échelon local, on le sait, parce que le directeur de la piscine... le directeur de la prison a participé à la remise des prix.
Donc, un beau lapsus.
Oui, révélateur. Assez révélateur, oui, absolument. Oui.
Après, que l'ensemble, entre guillemets, de la chaîne de décision jusqu'au ministre ait été informé de l'ensemble du dossier, moi, si je prends les ministères que je connais, que ce soit la santé ou l'intérieur, je serais pas du tout aussi catégorique que la syndicaliste qui était sur votre plateau ce matin. Et en plus, honnêtement, j'ai l'impression qu'on... On veut absolument créer une énorme polémique sur un événement. On peut être d'accord ou pas et on peut le critiquer. Je ne sais pas si on en reparlera, mais ça, franchement, je trouve qu'on est en train d'en faire une affaire d'État alors qu'il n'y a pas forcément lieu.
Oui, alors, ce qui pose question, en fait, ce n'est pas tant qu'il y ait des activités, parce que ça existe depuis de très nombreuses années à l'intérieur des prisons pour la réinsertion. Ce qui pose question, c'est... C'est plutôt la forme, le décorum. C'est Lebret, voilà les éléments des courses de.
Et puis il n'y aurait peut-être pas de polémique si Éric Dupond-Moretti n'avait pas lâché ses hommes et avait assumé en disant oui, effectivement, ça peut peut-être surprendre, mais c'était pour récolter de l'argent pour des associations. Alors quand même, il y a un article du Parisien juste après l'événement. Il y a le directeur de la prison de Fresnes qui tweete en se félicitant de l'événement juste après l'événement. Donc j'invite Éric Dupond-Moretti à suivre sur Twitter le directeur de la prison de Fresnes. Comme ça, il sera informé de ce qui se passe à la prison de Fresnes s'il n'est pas au courant. Et puis, il faut le dire aux téléspectateurs, la vidéo qu'on a vue, a été validée par la direction de la communication de la place Vendôme. Donc forcément, et puis dans le Figaro, j'ajoute un dernier point, dans le Figaro, en off, un membre du cabinet du ministre dit qu'ils ont été informés de l'événement, mais qu'ils ne savaient pas pour le kart et les piscines. Donc on voit bien que ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et plus on va tirer le fil, plus l'épisode va feuilletonner, plus peut-être que Éric Dupond-Moretti va se retrouver dos au mur à devoir finalement avouer qu'il savait. Ça ressemble un peu à la communication de Gérald Darmanin le soir du Stade de France. On tweet trop vite et après on court derrière son tweet.
Ouais, et en matière de communication, évidemment, tout semble s'effondrer, même dans le choix des images, puisqu'il y a eu un montage et les images que nous avons diffusées et que vous avez vues sur les réseaux sociaux ont été scrupuleusement choisies et donc montées. À ce sujet-là, d'ailleurs, Alain Jakubowicz estime, parce que les images ont été choisies et qu'on est englobé dans une stratégie de communication, qu'il n'y a pas d'affaire. On l'écoute.
On voit ces images telles qu'elles sont présentées, elles sont évidemment choquantes, mais vous disiez vous-même, il y a 25 minutes, qui a choisi ces images? Pourquoi a-t-on choisi ces images? Enfin, on sait aujourd'hui qu'il y avait plusieurs épreuves. Il y avait notamment des questionnaires, il y avait une épreuve de mime. Pourquoi on ne voit pas l'épreuve de mime? Pourquoi on ne voit pas l'épreuve intellectuelle? Pourquoi on ne voit que ces détenus? Pourquoi on ne voit pas les gardiens qui étaient également présents? Pourquoi on ne voit pas les citoyens qui étaient également présents? Enfin, on est en train de faire une affaire où il n'y a pas d'affaire. On est en train de présenter les prisons comme étant le club méditerranéen. Mais ce type d'initiative existe depuis toujours et elle est programmée des mois à l'avance. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Bien sûr que le ministre était au courant. Et moi, j'en veux surtout au ministre de ne pas défendre ce type d'initiatives qui sont nécessaires, qui font partie effectivement de la réinsertion.
Eduardo Riancipel, comment arriver à défendre une course de karting et une piscine à l'intérieur d'une prison?
Bon, c'est difficile parce que je pense que c'est pour le moins maladroit. Et ce qui me gêne, si vous voulez, dans cette affaire, c'est que j'ai du mal à comprendre quel est l'intérêt de rendre la vie en prison, une fausse vie en prison. Parce que ce n'est pas la vie en prison, ça. Hein. Allez vous balader. Moi, je connais les prisons françaises.
Surtout à Fresnes.
Je connais bien les prisons de la région parisienne et je n'ai pas tout visité. Je peux vous assurer que ça ne ressemble pas à ça. Mais donner le sentiment qu'on tombe dans quelque chose qui a vocation à être un spectacle, pour donner en plus une image qui est une illusion de la prison, alors que la vie en prison, elle est d'une dureté redoutable, je trouve que ce n'est pas bien. Oui, aux activités pour la réinsertion, par le travail, la culture, le sport. Je comprends ce que dit Alain Jakubowicz, mais je ne vois pas en quoi le karting est intéressant pour les gens en prison. Que ça participe de l'évasion. Pardon, mais l'évasion, c'est quand même intéressant quand on se trouve en prison.
L'absus révélateur, peut-être, là aussi.
Non, un mot choisi.
D'accord.
Un mot choisi. Mais on peut y compris favoriser l'évasion autrement. Quand j'étais jeune, je me souviens, ça ne vient pas de France, mais je me souviens qu'aux États-Unis, il y avait eu des prisonniers américains qui avaient fait un album de rap, qui avait eu un grand succès. Et on peut tout à fait, je pense qu'on peut montrer la prison. On peut y compris, mais faire un téléspectacle avec un concours, ça a été très mal compris, très mal préparé. Je trouve que c'est maladroit et je voudrais qu'on passe à autre chose parce que la prison mérite autre chose. Moi, je suis de la majorité présidentielle et je n'ai pas peur de dire que la France a été condamnée à plusieurs reprises par des instances européennes pour des conditions qui ne sont pas convenables dans les prisons. Je rappelle que la prison, c'est la privation de liberté et de mouvement. Elle n'a pas vocation à produire de l'humiliation, à faire perdre la dignité des gens et avoir des traitements qui parfois sont déshumanisants.
Mais vous comprenez que ça ne peut pas être entendu par toute la population française et qu'aujourd'hui le ministère soit gêné aux entournures parce qu'on dit voilà, on envoie des gens en prison, des gens qui ont été condamnés et on leur fait faire du karting. Bien sûr qu'il faut de la réinsertion, bien sûr
attention.
Les activités doivent exister.
C'est bien ce que je dis, c'est que je pense qu'y compris si on veut montrer une image de la prison, si on veut commencer à préparer aussi peut-être à ce que des prisonniers aient un rapport avec l'extérieur, qu'ils puissent l'exprimer autrement, mais qu'ils le fassent dans quelque chose d'utile.
Alors pourquoi Éric Dupond-Moretti ne l'assume pas? Pourquoi
je pense qu'il l'assume.
J'étais au courant,
mais moi,
c'est très bien de réinsérer les prisonniers avec des courses de karting.
Ça, je fais confiance à la parole du ministre, il s'est expliqué, il a dit qu'il n'était pas au courant, il peut... tout à fait être possible que le cabinet soit au courant, mais que ça ne soit pas transmis au ministre, ou comme on l'a dit, l'ensemble des activités. Bon, laissons ça de côté, passons à autre chose, essayons de tirer des effets positifs de ça. Je pense que ça a été maladroit. Et encore une fois, je pense que la prison n'a pas à participer à un spectacle qui peut porter à ces débats et à cette confusion dans les esprits. Si on veut montrer une image de la prison et avec des prisonniers, je pense qu'on peut faire autrement. On peut faire autrement.
À quel point c'est embarrassant pour Éric Dupond-Moretti, selon vous, William?
Je pense que petit à petit, c'est en train de devenir une affaire d'État. En fait, plus on creuse et plus on voit le problème. C'est-à-dire que les premières images de Fresnes ont détruit la communication de Gérald Darmanin de tout l'été. Quelle était la politique de Gérald Darmanin ? Gérald Darmanin a dit, en gros, il faut attraper le plus de délinquants possible pour ensuite les foutre en prison pour diminuer la délinquance. Mais toute cette politique-là s'est effleurée, parce qu'en fait, la politique de prison telle qu'imaginée par Gérald Darmanin, ça doit avoir un effet dissuasif. Ça veut dire, en gros, à tous les éventuels délinquants et criminels, la prison vous coûtera plus que le crime ou le délit que vous ferez. Et donc, du coup, ils font un rapport coût-bénéfice et se disent que ce n'est pas rentable. Mais seulement quand vous voyez ce type d'image et que vous habitez et que vous êtes potentiellement délinquant ou criminel, est-ce que, du coup, maintenant, avec ces images de Fresnes, vous avez peur de la prison actuellement ? Donc, toute l'image de Gérald Darmanin a été détruite de tout l'été. Ensuite, il a fait une interview le dimanche dans le JDD, auquel il a annoncé une partie de sa politique migratoire et sécuritaire. On n'en a pas parlé, ou très peu. De la manière, de toute façon, on n'a retenu qu'une seule image. Et j'ai trouvé que la comparaison, quand il a dit « il faut être ferme face à la minorité d'emmerdeurs », imaginez cette phrase maintenant avec les images actuelles. Donc c'est une catastrophe absolue, ça a détruit la politique du gouvernement, en sachant que 75% des Français ont un jugement négatif du bilan d'Emmanuel Macron sur la sécurité. Ensuite, après, pourquoi est-ce que c'est en train de devenir une affaire d'État ? Parce qu'ensuite, on commence à tirer le fil petit à petit, et on voit que petit à petit, la chaîne est en train de remonter tout en haut. C'est impossible, en France, en tout cas à minima, et même dans d'autres pays, qu'on puisse communiquer des images sur une prison pour des raisons de sécurité sans avoir l'aval du ministère. Ce serait un non-sens complet. Donc si par cas on a pu communiquer sur des images...
Ils l'ont reconnu, hein. Au service communication voilà. A validé le truc.
Ils vont chercher qui vont devoir.
Il y a une enquête qui a été diligentée.
Ils
cherchent un fusible.
Ils cherchent, voilà, tout à fait.
Ça pourrait être le directeur de la prison de Fresnes d'ailleurs.
Directeur de la prison de Fresnes, ils vont voir éventuellement
peut-être
quelqu'un dans le cabinet.
Peut-être qu'ils cherchent juste à faire valoir sa parole.
Non, mais
d'ailleurs, je n'étais pas au courant.
Le sujet essentiel, ce n'est pas celui-là. Le sujet essentiel, c'est que Éric Dupond-Moretti a le droit de défendre cette politique de réinsertion, même si je pense que c'est la mauvaise. La question essentielle, et la question qu'on se pose maintenant, c'est comment on fait pour réinsérer les gens, et les délinquants et les criminels dans la société française.
Je suis d'accord avec vous, mais Gauthier Lebret, la question qu'on se pose aussi aujourd'hui, c'est à quel point cela peut embarrasser le ministre de la Justice. Jusqu'à quel point ? Parce que ça peut vite devenir le sparadrap du capitaine ad hoc, quand même.
Comme le disait William, s'il avait assumé, s'il avait fait corps avec ses troupes en disant « ça vous plaît pas, d'accord, mais j'assume, on l'a fait », c'était pour des associations et pour créer du lien, pourquoi pas, entre détenus et gardiens de prison. Sauf que c'est pas du tout ça. Il repousse le dossier de manière un peu craintive en disant « je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas ». Et quand on regarde et quand on creuse et quand des journalistes au Figaro à Valeurs Actuelles commencent à enquêter et à regarder qui savait, eh bien on voit que la responsabilité est bien plus élevée.
Mathieu Langlois.
Eh ben ça montre bien une chose, c'est que, et Gauthier l'a dit, il a fait un parallèle avec le Stade de France. Et dans l'analyse de la crise et dans la gestion post-crise, c'est exactement, je suis absolument d'accord avec vous, on retrouve exactement les mêmes effets. Et ça montre deux choses, c'est qu'un, on ne sait pas prendre du temps pour analyser des faits, pour communiquer. Et donc, on se précipite et on fait souvent n'importe quoi. Et la deuxième chose qui nous fait profondément défaut à tous, et pas uniquement, et on voit que même au plus haut niveau que ça fonctionne pareil, c'est cette incapacité qu'on a d'accepter de dire on s'est trompé ou on a fait une erreur. Voilà. Et ça serait tellement plus simple. Il y a des pays où c'est culturellement beaucoup plus admis d'exprimer ses erreurs et sans aller jusqu'à la faute, mais ça éviterait.
Mais même pas quand vous prenez par exemple Édouard Philippe. Pendant la crise sanitaire, il a dit « moi je ne sais pas, en tout cas je ne sais pas trop ». Il est arrivé première personnalité politique
française. Mais il y a des bons exemples, aussi des mauvais.
Donc, du coup, Éric Dupond-Moretti, tout ce qu'il avait dû à faire, et c'était en cohérence avec l'idéologie qu'il prône depuis longtemps. Moi je suis contre, je pense que ce n'est pas le bon point. Mais s'il avait dit « écoutez, moi je pense que c'est le meilleur moyen de réinsertion parce qu'en fait on s'adapte aux délinquants, on essaye de les comprendre pour leur dire « la République vous entend et vous comprend ». C'était entendable. Et même si moi je suis contre, c'était entendable, il n'y aurait pas eu d'affaire.
Mais peut-il se déjuger, peut-il se démentir aujourd'hui ?
C'est trop tard. C'est pour ça que petit à petit, ça va devenir une affaire d'État parce qu'on va comprendre que c'était le cabinet qui était au courant, voire le directeur de cabinet, voire plus haut.
Est-ce que ça peut provoquer la chute du ministre de la Justice ?
Il ne faut pas l'exclure.
Je
pose la question.
On n'est pas dans un pays... excusez-moi.
Si on apprend que Éric Dupond-Moretti a menti...
Si vous me dites tous que c'est... Je vais être un peu vicieux, faire de la logique. Si vous me dites tout, ça ressemble à l'affaire Darmanin. Darmanin, il est toujours là, ça n'a pas conduit à sa démission. Ça va être pareil pour...
Il a même eu un portefeuille élargi avec les Outre-mer.
Ça va être pareil pour Dupond-Moretti. On va passer
une promotion pour Éric Dupond-Moretti.
Bah, peut-être, c'est comme ça que ça marche en Macronie.
On peut être en désaccord, on peut être choqué. Moi, je trouve que tout ça est maladroit, mais au moins, ça permet de parler de la prison. Et parlons des vrais sujets de la prison et parlons de la réinsertion.
Non, mais on en a beaucoup parlé.
Je vais vous dire mon sentiment.
Vraiment responsable.
Moi, je suis devenu, voilà, vous l'avez dit, un Français assimilé basique. Hein. Donc, moi, je pense que les Français, ils vont passer aux choses très vite. C'est pas du tout une affaire d'État. Ça fait simplement tourner les médias pendant l'été quand on a moins d'actualité.
Une affaire d'été.
Et d'autres affaires, on cherche à savoir quelle est. On cherche à savoir.
Si ça arrive au mois de janvier, au mois de février, je peux vous dire.
J'exagère un petit peu pour les besoins de la cause. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va très vite passer à autre chose. Et je pense qu'en plus, le plus simple, c'est que Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a demandé une enquête. Bon, on va attendre les résultats de l'enquête pour avoir la vérité.
Non, il y a une différence. Le gouvernement va tenter de passer à autre chose. C'est pas pour autant
mais que les Français
vont pardonner.
On va pas parler de
qu'est-ce
ça.
Qu'est-ce que révèle cette affaire?
Et puis, de toute façon, je vais vous dire, moi, je suis simple. Il y a des élections. Donc, aux prochaines élections, si les Français ils veulent prendre ça pour problème, et juger, il n'y a pas de souci.
La dernière fois que vous avez dit ça, vous avez perdu la majorité absolue. Donc, moi, je comprends.
Pardon, on a quand même gagné la présidentielle et on n'est pas le groupe le moins dépourvu à l'Assemblée. Après, c'est vrai, on n'a pas
de majorité absolue. Un parti gouvernement.
Non, mais c'est juste du jamais vu depuis De Gaulle. Mais c'est pas grave.
Emmanuel Macron.
On peut considérer. Alors, c'est difficile de regagner.
Le premier, c'est Emmanuel Macron, en 2017, avait dit je serai jugé sur ma capacité à faire baisser l'extrême droite. Elle bat des records absolus actuellement.
En tout cas, il a gagné la présidentielle. Ça a échappé à
transition toute trouvée en tout cas pour notre prochain sujet qui sera le dernier d'ailleurs de 90 minutes info, c'est la rentrée. Alors peut-être que les Français vont oublier cette affaire de Colantes avec la rentrée plutôt dense, Gauthier. Qui
on posera la question en tout cas au premier point presse d'Olivier Véran pour le Conseil des ministres.
Ça, c'est voilà, pour le porte-parole du gouvernement.
Pour ne pas ennuyer la France.
Bien sûr. La question sera posée, c'est une certitude. Mais si vous pouviez dessiner la cartographie, l'agenda qui attend avec les points principaux de cette rentrée politique, ce serait de quelle manière?
Alors, premier Conseil des ministres, donc mercredi. Dans l'entourage du président de la République, on nous dit que ce serait une rentrée très verte, très portée sur la transition écologique. Ça a d'ailleurs commencé.
Clément Beaune, la bonne cravate.
Exactement, je suis dans le thème. Clément Beaune, ministre des Transports, a dit qu'il voulait faire passer une loi pour limiter les voyages en jet privé des plus riches et des entreprises. Ensuite, évidemment, il y a deux textes très forts. Assurance chômage, normalement, qui doit arriver au Parlement en octobre, et puis évidemment la fameuse réforme des retraites, 64-65 ans. Là, il y a des concertations qui vont s'ouvrir dès le mois de septembre. Et alors, le 8 septembre, le président de la République, je l'ai noté, va lancer le Conseil national de la refondation. Alors, qu'est-ce que c'est que le Conseil national de la refondation? Peu de personnes le savent. C'est en gros des syndicats, des membres d'élus, des membres de partis politiques qui vont discuter de ces deux grandes réformes, assurance chômage notamment, ça discutera aussi de l'école, et donc réforme des retraites. Et puis, un premier voyage pour Emmanuel Macron, ça sera à partir de jeudi, direction l'Algérie pour le chef de l'État pour tenter d'apaiser les tensions avec l'Algérie, puisqu'il avait dit, le président de la République, qu'il allait baisser les visas de 50% si le gouvernement algérien ne laissait pas les laissez-passer consulaires pour expulser des étrangers en situation irrégulière. Il avait aussi parlé de quête mémorielle, de rente mémorielle plutôt, pour critiquer le gouvernement algérien qui, selon lui, se servait trop du passé de la colonisation pour critiquer la France. Et puis, évidemment, il y a la question de l'énergie, avec la possible pénurie d'énergie qu'on pourrait rencontrer dans les mois à venir. Donc, ça discutera aussi, évidemment, du gaz, notamment lors de ce voyage en Algérie.
Selon vous, le dossier le plus chaud de la rentrée, quel sera-t-il? Le dossier de la sécurité, le dossier énergétique, justement, ou environnemental?
Comme à chaque fois avec
Emmanuel
Macron,
le pouvoir d'achat aussi.
Il y a beaucoup de crises. Donc
le pouvoir d'achat. Et le plein emploi dont parle Emmanuel Macron régulièrement. Il a encore répété à Bormes-les-Mimosas.
C'est compliqué de faire une hiérarchie, effectivement. Il peut y avoir de grandes manifestations à cause de la réforme des retraites. Il peut y avoir une pénurie d'énergie. L'essence peut repartir à la hausse. Ça peut créer un mouvement de gilets jaunes bis. L'insécurité, 70% des Français trouvent que son bilan sécuritaire, c'était dans le JDD hier, est mauvais. Donc, effectivement, il y a beaucoup de chantiers. Et beaucoup de travail.
Édouard Dorian-Sipel, la priorité de la rentrée pour le gouvernement?
La France et les Français.
Mais, d'accord, très bien. Mais sur quelle thématique?
Un programme.
Je pense que d'abord, il y a les questions de pouvoir d'achat. Je rappelle qu'il y a eu un premier temps sur la loi de finances qui a permis de voter un premier volet en faveur du pouvoir d'achat immédiat des Français, autour de 20 milliards et quelques autres mesures. Et que maintenant, on va commencer le travail du quinquennat. C'est-à-dire qu'on va mettre en place et en forme et en mouvement les grandes mesures que le président a proposées, les grandes lignes sur lesquelles il a été élu, notamment la planification énergétique et la planification écologique. Donc je crois que tous ces chantiers vont être au fur et à mesure préparés et présentés. Et ensuite, ça appartiendra à la majorité, ça appartiendra à l'ensemble des parlementaires de la préciser dans les textes. Hein, le gouvernement viendra avec les projets de loi. Mais je pense qu'il faut prendre les problèmes les uns après les autres. Et c'est le propre du politique que de prioriser les choses, que de hiérarchiser les problèmes. Et à la fois, je pense, c'est difficile, toujours difficile, mais là, on a une difficulté avec toutes les crises, la guerre, etc., qui font qu'il y a des besoins immédiats pour le quotidien. Inflation, pouvoir d'achat, lutte contre le chômage, qui sont prioritaires. Et puis, il y a tout ce qui relève des changements en profondeur de moyen terme et de long terme. Et je pense que c'est important dans une démocratie et en politique de ne pas avoir le guidon uniquement sur le quotidien et l'immédiateté. Il faut bien faire des grandes transformations, c'est-à-dire prendre des mesures qui ne sont pas immédiatement visibles et encore moins immédiatement atteignables dans l'immédiat. Donc il faut aussi qu'on renoue avec le long terme. Mais c'est vrai que c'est aux politiques de convaincre sur des mesures de long terme.
Absolument. Mais dans cette rentrée brûlante, et on l'a bien constaté lors de l'été, c'est Gérald Darmanin qui a beaucoup occupé l'espace médiatique. Est-ce que la sécurité, l'immigration, en tout cas tous les sujets régaliens d'ailleurs de Gérald Darmanin et du ministère de l'Intérieur seront absorbés par une autre actualité, William T., qu'elle soit économique, internationale ou beaucoup plus politique encore.
Vous demandez de mettre des priorités, donc je vais me mouiller.
Mais oui, bien sûr, parce que c'est ça qui, je pense, qui intéresse celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui.
Il faut connaître le contexte. Emmanuel Macron a une majorité relative. C'est-à-dire que techniquement, le gouvernement Bonne peut subir une motion de censure de la part des autres parlementaires. Pourquoi est-ce qu'il y aura éventuellement une motion de censure si par cas il y a une révolte importante de type gilet jaune? Donc la première des priorités, c'est la crise énergétique. Si vous avez les classes moyennes et classes populaires qui n'ont pas le chauffage, qui ont des coupures d'électricité à l'hiver, le gouvernement a un risque de tomber. S'ils n'ont pas l'occasion de se chauffer, que vous êtes en restriction à ces niveaux-là, c'est fini, le gouvernement peut tomber à partir de janvier. Donc je pense que c'est la première priorité, c'est d'assurer la souveraineté énergétique de la France. La deuxième priorité, c'est le sujet qui est monté cet été, c'est la question de la sécurité, les questions migratoires. Donc c'est les sujets de Gérald Darmanin. La difficulté, c'est qu'Emmanuel Macron a repoussé le sujet avec son grand débat. Et donc du coup, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura un texte. Je pense qu'il faut mettre les textes d'abord, en premier, pour montrer qu'Emmanuel Macron est capable de répondre à ce qu'il a compris, notamment au second tour de l'élection présidentielle et au score de Marine Le Pen, qui a atteint un score historique pour l'extrême droite, c'est-à-dire 42%. Ensuite, après les troisièmes sujets, la troisième des priorités, c'est préparer la France au défi du 21e siècle, c'est-à-dire comment on fait pour que la France devienne plus puissante et augmenter le pouvoir d'achat, non pas de façon conjoncturelle en distribuant des chèques, mais en permettant un nivellement par le haut du niveau de vie des Français. Et ça, c'est le chantier à long terme, concernant le solde de refondation, etc. Mais s'il y a une crise énergétique, c'est fini, ça tombe.
Et le rôle d'Elisabeth Borne dans tout cela à la rentrée, Gauthier Lebret? Parce que je crois savoir que dans une étude...
popularité s'envole.
Exactement, elle dépasse même Emmanuel Macron, elle est plus appréciée.
Mais quand on parle peu, on n'est jamais. On est toujours populaire. Mais Elisabeth Borne, parfois, on peut le voir, elle recadre parfois les ministres qui vont trop loin. On prend l'exemple de Gérald Darmanin qui a occupé l'espace médiatique tout l'été, parfois avec des résultats, renforts d'effectifs, parfois avec des échecs. L'imam qui le veut expulser, on attend toujours la décision du Conseil d'État. Mais ce qui était intéressant de voir dans l'évolution de Gérald Darmanin, c'est qu'il fait une grande interview dans le Figaro au début du mois d'août, puis sur cette antenne, et il fait un lien entre délinquance et immigration. Et hier, il dit non, moi, petit-fils d'immigré, dans les colonnes du JDD, je ne ferai pas ce lien. Je me mouille un peu, je pense qu'il a pu avoir une petite remontrance de la part de Matignon en disant « tu vas trop loin, laisse ce lien à Marine Le Pen ». Et d'ailleurs, dans la même interview, dans la même phrase quasiment, il donne les chiffres notamment de Marseille dont vous avez parlé en début d'émission. Donc Elisabeth Borne, parfois, elle peut aussi jouer, et on le sait, Elisabeth Borne, elle voulait se séparer de Gérald Darmanin après le Stade de France. Elle a pas eu gain de cause.
Juste un mot pour conclure, parce que le temps qui nous est imparti,
rapidement,
s'achève, Mathieu Langlois.
Pour revenir à la priorité du gouvernement ou du président de la République, ce serait de nous rassurer, parce que je trouve que l'été a été... d'habitude, l'été, c'est un moment agréable, justement.
Mais c'est fini depuis longtemps, ça.
Oui, affaire Benalla en plein été. Hein.
Ouais. Non, mais je suis un peu... À part au plan individuel.
Mais Benalla, c'est en plein.
D'arriver sur cette rentrée la cohésion sociale, tout en nous rassurant, mais en mettant un peu des mauvaises émotions, parce qu'on adore les mauvaises émotions... mais être un peu plus dans l'action efficace, je pense que ce serait pas mal. Et avec une cohérence, une vision, un cap.
un bon conseil, une belle orientation en tout cas. Merci à tous les quatre de nous avoir accompagnés. Dans un instant, c'est Punchline avec Laurence Ferrari. À très vite sur CNews, à demain notamment pour 90 minutes info. Salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.